commencer, je vous remercie de l'opportunité de m'inviter à partager mes recherches sur les systèmes durables. Je n'aurai pas de musique, pas de vidéo. Ma présentation sera dans un format plus traditionnel. Oh, je ne crois pas que c'est ma présentation. Merci, merci, j'apprécie. Je vais vous parler des systèmes durables. Je vais me concentrer sur trois systèmes qui sont importants pour nous. La mobilité, le logement et les systèmes alimentaires. Je vais faire le lien avec deux thèmes, le métabolisme industriel et le métabolisme citadin. Pour faire mes analogies, je vais utiliser l'évaluation du cycle de vie. On va regarder ce qui se fait habituellement à l'extérieur des villes avec la consommation qui se fait habituellement dans les villes. Pour ce cadre de travail, nous modélisons chacune de ces activités. En tant qu'ingénieur, nous vous mettons les frontières autour de ces activités. Nous regardons les circulations d'énergie dans les systèmes. Nous penchons sur ce qui sort des systèmes, y compris les produits. Ce modèle nous permet d'évaluer le rendement de durabilité. On peut voir comment l'énergie est distribuée dans le cycle de vie et on peut voir des domaines sur lesquels on peut se concentrer. Je vais commencer avec la mobilité. Donc, le premier modèle global d'un véhicule de taille moyenne en travaillant avec Chrysler, GM et l'industrie des matières. Nous voulons avoir un point de référence pour améliorer le cycle de vie du véhicule. Après 3 ans de modélisation, voici les résultats. Voici le profil de cycle de vie de ce véhicule moyen. Un gigajoule qui vous montre la distribution selon les différents stades. Donc, on peut voir la production de matière, la fabrication. Et le cycle d'énergie est dominé par la phase d'utilisation qui utilise à peu près 80% de l'énergie dans le cycle de vie. On fait le total, on a à peu près 1000 gigajoules d'utiliser. Une des tendances dans cette industrie, c'est d'utiliser des matières plus légères. Si on remplace l'acier par de l'aluminium léger, on va réduire ceci, mais il va y avoir une augmentation de la production de matière, car la production d'énergie d'aluminium demande beaucoup d'énergie. Cela dépend d'où on produit l'aluminium. Et tout dépend de la source d'énergie électrique. Nous faisons aussi un travail sur l'électrification des véhicules. Je vais vous donner un modèle d'un véhicule électrique branchable. Voici le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre. 100 grammes de CO2 équivalent par 1000 sur l'axe des Y. On voit le facteur d'utilité, c'est-à-dire la quantité de circulation en mode électrique qui passe de 0 lorsqu'on circule seulement en mode sur essence jusqu'à 1 lorsqu'on est en mode entièrement électrique. Et ces lignes montrent plus on augmente l'utilisation de l'électricité, habituellement les émissions baissent. Et c'est les lignes de couleur montrent les différents réseaux de distribution électrique aux États-Unis. Dans ce réseau de distribution électrique, il y a beaucoup d'hydroélectricité, mais il y a deux réseaux qui ont amené une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en mode électrique, à cause que ces réseaux de distribution électrique dépendent surtout du charbon comme source d'énergie. On fait un travail en Chine sur ceci. Ils ont un grand programme pour pousser l'électrification des véhicules. Voici ce que le résultat de leurs efforts amènera. À moins de changer leur source d'énergie pour l'électricité, ils ne feront rien avec ces véhicules électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Regardons une autre évolution de la mobilité. C'est l'équation IPAT qui regarde l'impact d'une activité par rapport à la population, la consommation par personne et la technologie, qui est le dommage environnemental par unité de consommation. C'est une formule développée par un écologiste et un physicien, Colvin, qui est scientifique en chef, en ce moment conseiller scientifique en chef pour le président Obama. J'ai opérationnalisé cette formule. J'ai regardé l'utilisation d'une automobile aux États-Unis, j'ai regardé l'impact en termes de gallons qui a augmenté par 66% de 1970 à 2009, car la population est passée de 200 à 300 millions, qui a une augmentation de 51%. La consommation, le nombre de véhicules parcourus, le nombre de milles parcourus par personne a presque doublé, et le nombre de gallons par mille en moyenne est passé de 13 à 20. Donc, il y a une augmentation de l'efficacité de la consommation, mais ce n'était pas suffisant pour compenser l'augmentation de la population et les tendances de circulation par automobile. Donc, en 2025, nous allons avoir une efficacité encore plus grande dans la consommation énergétique avec le nouveau modèle. On va faire 54,5 000 par gallon. Et puisque la population se stabilise et on réduit et on stabilise aussi le nombre de kilomètres parcourus par personne par année. Mais si on regarde en Chine, il y a moins de véhicules par personne. Aux États-Unis, on fait à peu près 1 000 véhicules par 1 000 personnes. En Chine, ça se situe autour de 10 véhicules par 1 000 personnes. Donc, les améliorations technologiques ne nous permettront pas de faire de grandes améliorations. Au Canada, le nombre de kilomètres parcourus par personne est un peu moins, c'est les 1 000 par personne, c'est à peu près 6 000, c'est sur les statistiques de 2011. Mais les politiques sont importantes. Les prix d'essence sont plus élevés qu'aux États-Unis, ce qui a un effet sur le nombre de kilomètres parcourus par personne. C'est le prix total de gaz qui comprend les taxes et le coût. Et si on regarde le coût, aux États-Unis, en Europe, c'est ça. Mais les taxes sont beaucoup moindres aux États-Unis. Si on augmente le prix de l'essence aux États-Unis, cela aura un effet sur les tendances de consommation. Si on regarde les différents modes de, pour la durabilité, on doit arrêter d'utiliser des véhicules qui ont une utilisation intense énergétique. Ici, c'est le nombre de BTU par passager par année. Il y a des surprises. On peut voir que les autobus de transport en commun consomment plus d'énergie. On pensait que le transport par rail aussi serait beaucoup mieux. Mais il y a quelque chose qui influence cette tendance, car ça ne semble pas logique. Il y a certaines mesures. Je vais essayer de vous laisser déduire quelles sont ces mesures, car ça vous donne la réponse pourquoi l'intensité suit la tendance que l'on peut constater. C'est à cause de la charge de passagers. C'est l'occupation du véhicule. On pourrait mettre beaucoup plus de personnes sur nos trains, beaucoup plus de personnes sur nos autobus. L'occupation moyenne des véhicules, c'est 1,5. Donc, l'occupation, c'est une représentation de l'utilisation de notre technologie. Ceci indique dans plusieurs cas où nos modes de transport sont sous-utilisés, où on a passé le monde. Les avions, c'est l'exemple à l'inverse. On occupe presque toutes les bandes. Si on regarde les voitures et les VUS, le taux d'occupation des VUS est d'à peu près est de 1,4. Pour les va-et-vient au travail, c'est 1. On ne pourrait pas avoir moins de 1. Parfois, la personne est présente physiquement dans son véhicule et peut-être absente mentalement, mais on ne peut pas aller en bas de 1. Mais les tendances semblent vouloir aller en dessous. Donc, la phase d'utilisation du véhicule a le plus grand impact dans le cycle de vie. Nous avons des améliorations technologiques à l'horizon, mais elles ne sont pas suffisantes pour compenser nos tendances de consommation. Nous allons avoir plus de signaux de marché et la réglementation ne suffira pas. Nous allons avoir besoin d'un prix de carbone pour mettre un coût réel à l'énergie et nous allons devoir changer les comportements. Cela comprend les tendances de développement, ce qui affecte nos besoins énergétiques. Et nous allons devoir faire une meilleure utilisation de ces véhicules. J'aimerais maintenant parler des maisons résidentielles. Voici une maison modélisée à Ann Arbor, au Michigan. Nous avons pris cette demeure, et nous l'avons reconçue avec les technologies disponibles en se concentrant sur l'isolation, l'efficacité des électroménagers, les fenêtres avec les systèmes d'échangeurs d'air, des choses assez simples. Puis nous avons regardé le rendement du cycle de vie sur 30 ans. Il y a 300 tonnes de matériel utilisé. L'énergie est passée de 16 000 gigajoules, qui représente à peu près 16 voitures par il y avait 1 000 gigajoules par voiture. Nous avons pu réduire de 70% avec des mesures disponibles pour le cycle de vie. On peut voir l'énergie qu'on prise dans les matières de construction. L'utilisation est à peu près 91% pour la maison moyenne. Plus on augmente l'efficacité, la construction est encore plus représentative. Si on a une maison à consommation zéro ou une maison à efficacité 100%, l'intensité énergétique se trouve surtout dans les matières de construction. Regardons le coût. Nous avons travaillé avec un entrepreneur qui n'aimait pas beaucoup notre conception. Et l'écran facteur était le prix de la maison qui est passé de 240 000 $ à 262 000. Le prix a augmenté de 20 000 $. Voici les coûts du cycle de vie. Voici l'hypothèque, les services publics et l'entretien. Avec la maison efficace, on peut voir qu'on réduit beaucoup les services publics, mais l'hypothèque compense les économies en services publics. Mais mon hypothèse pour la durabilité, si on suit ce qui est durable, c'est ce qui aura l'option économique. Qu'est-ce qui arrivera avec le prix des énergies au fil du temps? Les prix augmenteront. Donc, j'ai recalibré ce modèle récemment avec l'augmentation des prix. On peut voir un changement. Maintenant, la maison efficace a pris le devant à cause d'augmentation des services publics. Si on transforme les différents électroménagers, si on regarde quel est le remplacement optimal des réfrigérateurs selon les différents objectifs fonctionnels. Si on regarde après 2020, si on veut minimiser l'utilisation d'énergie, on remplacerait le réfrigérateur assez fréquent. Ceci inclut l'énergie associée à la fabrication du réfrigérateur. Voici les émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue coût. Ça veut dire garder votre réfrigérateur. À cause du coût initial élevé, on veut l'amortir sur plus de 15 ans. Mais nous avons fait une analyse du point de vue d'un propriétaire actuel. Si vous avez un réfrigérateur qui est plus vieux que 1994, il devrait être remplacé en termes de coût et d'efficacité énergétique. Et pour les réfrigérateurs, si vous avez un réfrigérateur qui a été fabriqué en 2005, vous pouvez le remplacer et sauver de l'énergie. Les tendances de consommation des maisons aux États-Unis. Sur cette période de temps, nous avons augmenté de 67% la taille des maisons. Est-ce que c'est parce que le nombre moyen d'occupants a augmenté? Nous avons de plus grosses familles où les familles ont grandi sur cette même période de temps. Non. Le nombre moyen de personnes par ménage a réduit sur la même période de temps. Les maisons sont plus grosses et les tailles des familles sont plus petites. Donc, ce n'est pas une tendance durable. Si nous regardons la grandeur des maisons aux États-Unis, c'est en mètres carrés. Comparé en Australie ou au Danemark, on peut voir des différences importantes, des différentes cours réunies. En Europe, la grosseur. Le taux d'occupation des logements est plus faible qu'ici. Voilà la norme en haut dans le coin. Donc, si on regarde les différents facteurs des immeubles, la phase d'utilisation domine les différentes périodes de de production de gaz à effet de serre dans le cycle de vie. La technologie existe, mais un des obstacles, c'est le coût initial de la technologie. Même si cela réduit les coûts dans l'ensemble du cycle de vie. Pour surmonter cet obstacle, nous avons besoin de code qui couvre les constructions actuelles. Et nous devons avoir des mesures incitatrices pour encourager l'adoption des nouvelles technologies dans la construction des bâtiments. Le dernier système dont je voulais parler, c'est le domaine alimentaire. Je n'ai pas encore mangé, je pense que ceci va m'ouvrir l'appétit lorsque je commence à penser au système alimentaire. Je vais regarder la production et la consommation de nourriture sous l'angle de cycle de vie. Je vais regarder différents indicateurs de durabilité aux États-Unis. Après 50 indicateurs, en regardant les indicateurs environnementaux, économiques et sociaux, je vais partager quelques-uns d'entre eux avec vous. Vraiment. Quelle est la portion du dollar qui va à l'agriculteur? En 1975, 40 sous du dollar dépensé en produits alimentaires étaient remis à l'agriculteur pour cultiver la nourriture. L'autre 60 sous allait à la mise en marché et à la distribution d'aliments. Dans les données les plus récentes, en 2006, cette portion a baissé à 19 sous pour l'agriculteur. Et si nous continuons cette tendance, nous allons réduire la part qui est remise à l'agriculteur. Nous allons manger des aliments virtuels car tout le dollar ira à la mise en marché. Donc, ce n'est pas une tendance durable. Si nous regardons la circulation des ressources associées à notre système alimentaire, voici la moulée pour les animaux, voici les cultures pour les légumes et les céréales, et voici c'est ce qu'on consomme. 26% des aliments comestibles sont gaspillés. Si on peut réduire notre consommation de ce côté, nous allons avoir des grands avantages dans la réduction de l'empreinte écologique de la production. Si nous regardons l'énergie aux États-Unis, nous utilisons à peu près 100 kWh d'énergie. 10% de cette énergie est mise dans le cycle de vie des aliments. Et on peut regarder encore plus en détail cette utilisation en termes de chacune des phases. Ici, si on se penche sur la production, tu vois qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont mises dans les engrais, beaucoup d'énergie dans la transformation, dans notre consommation. Et pour revenir au thème du réfrigérateur, 42% de notre consommation alimentaire est liée à la préparation et l'entreposage des aliments. Si on les met tous un sur les autres, voici l'énergie que l'on met dans les aliments et voici ce qui est disponible, la sortie des aliments, c'est à peu près un ratio de 7 ou de 10 pour 1 pour chaque unité d'aliments qu'on consomme. Ça prend 7 fois cette énergie dans son cycle de vie. Aux États-Unis, cette disponibilité alimentaire est 3900 calories par personne par jour. Je ne crois pas qu'on a besoin de 3900 calories par personne par jour. Donc, il y a une grosse opportunité dans la façon dont nous gérons notre consommation alimentaire et le gaspillage. La conséquence de notre consommation est un problème épidémique, c'est-à-dire l'obésité. Au Canada, la situation est légèrement mieux qu'aux États-Unis. Le taux d'obésité aux États-Unis est de plus de 30%. Il est à 32% d'obésité aux États-Unis. Au Canada, c'est 24,3% d'obésité. C'est un problème mondial. Ceci se traduit par des maladies liées au régime alimentaire. Ceci aussi exacerbe les problèmes de famine ailleurs. Je vais vous faire calculer l'indice de masse corporelle qui vous permet de vous catégoriser soit sur avoir un sous-poids, un surpoids ou une obésité. Prenez votre poids et divisez-le par votre grandeur en mètres carrés. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici. Je vais vous aider. Voici un tableau. Vous prenez votre hauteur, repérez votre hauteur. Je mesure 6 pieds et vous essayez de trouver votre poids. Moi, je suis sur la ligne ici. Et cela me permet de déterminer mon indice de masse corporelle. Est-ce que vous avez tous repéré votre mascarpone? J'espère que vous vous situez sur le tableau. Est-ce que vous avez tous repéré votre chiffre? Vous pouvez trouver où vous vous situez. Je suis à la limite, j'ai un surpoids. Et je pourrais être considéré obèse après mon dîner ce soir. Il s'agit d'un indicateur de santé, mais il faut se pencher sur d'autres facteurs. Si vous avez un surpoids ou si vous êtes obèse, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en mauvaise santé. Mais la consommation est un des grands problèmes du système alimentaire. Et ce qui m'aide, c'est la façon dont nous exagérons les portions. Ce qu'on appelle la distorsion des portions. Il y a 20 ans, une assiette de pâtes comportait 500 calories. À votre avis, une assiette de pâtes comporte combien de calories aujourd'hui? Je vais vous donner la réponse. 1000 calories. Deux fois plus. Quand on va au restaurant, ce sont des bons aliments qu'on consomme. Et cela met beaucoup de pression sur le cycle de vie du système alimentaire. Donc, nous allons nous pencher sur ce qu'on consomme. Ici, on voit les émissions de gaz à effet de serre liées au régime alimentaire. Et l'aliment qui se démarque des autres, c'est la viande. Voici ce qu'on consomme et ce qu'on gaspille. Vous pouvez voir à côté les produits alimentaires, la volaille, toutes les bonnes choses. Les aliments gras, les aliments sucrés et les légumes qu'on voit après. En travaillant avec les nutritionnistes, nous essayons de trouver ce qui est optimal d'un point de vue environnemental, d'un point de vue nutritif et d'un point de vue économique. Si on résume le système alimentaire, il y a beaucoup d'opportunités si on regarde à l'échelle mondiale. Il y a les problèmes de sécurité alimentaire, les personnes qui n'ont pas assez d'aliments, et de l'autre côté, il y a la surconsommation d'aliments qui mène au surpoids et à l'obésité. Le plus grand levier que nous avons, c'est notre consommation et les opportunités de réduire le gaspillage. On doit aussi regarder les changements d'origine alimentaire. Il y a des possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons avec les instituts nationaux de santé. Nous concentrons sur les politiques. Malheureusement, notre politique agricole promouvoit la production des produits agricoles. Nous ne nous penchons pas sur ce que nous disons. Nous devons faire le lien entre la production et l'objectif alimentaire, c'est-à-dire notre appréciation des aliments et les valeurs nutritives, mais nos politiques ne sont pas axées à cet égard. Je vais maintenant passer directement à mes remerciements. Je vous remercie de l'invitation pour vous parler de ce système et de pouvoir vous parler des points de levier pour assurer une transformation. Merci de votre attention.